Magnifique passage, magnifique section. Paul commence par cette section de son épître avec les mots « à cause de cela ». Et donc, bien entendu, « à cause de cela » fait référence à ce qui précède, ce que le pasteur Samuel nous a présenté la semaine passée. « À cause de cela, à cause du plan de Dieu de réunir toutes choses en Christ. » À cause du plan de Dieu de réunir juifs et païens en renversant le mur d'inimitié. À cause de cela. Et puis, il s'interrompt. Il y a trois petits points dans notre texte. Il s'interrompt pour reprendre sa pensée au verset 14 seulement. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Et puis il adore, et puis il prie. Et je crois que chaque vérité des Écritures qui nous sont présentées devrait produire cette même attitude dans nos cœurs. D'abord une soumission, et puis une adoration de notre Dieu. Et puis une prière pour pouvoir comprendre et saisir et appliquer ces vérités. En ce moment, je fais beaucoup d'études bibliques, de groupes découvertes. J'aime ces études, il faut que je vous le dise. Ce n'est pas une corvée pour moi. J'aime ces études et elles sont bien écrites. Elles ont été écrites par Samuel. Et on les lit ensemble, entre participants, à tour de rôle. Et puis je commente. Et pourquoi est-ce que je commente? C'est parce que parfois, les mots forment des phrases dont les vérités sont tellement grandes, dont la portée est tellement merveilleuse, qu'on ne peut pas juste la lire et passer à la suivante. On a juste besoin de s'arrêter, de méditer, d'illustrer, pour finalement adorer. Et j'ai le sentiment que Paul fait cela ici. Il vient de dévoiler dans le chapitre 2 notamment une vérité tellement belle qu'il veut s'assurer que ses lecteurs ont bien pigé le sens de cette vérité. Et ici, il va parler du grand mystère. Et normalement, quand on dévoile un grand mystère, ce grand mystère va bouleverser, il doit bouleverser nos vies. Alors, ce matin, je vous propose de voir la révélation du grand mystère, de voir ensuite son illustration et puis enfin sa raison d'être. Tout d'abord, sa révélation. On voit ça dans les versets 1 à 6. Il est dit au verset 5, parlant de ce grand mystère, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Est-ce que vous savez tenir un secret? Est-ce que vous savez tenir un secret? Je veux dire, pas le vilain secret de famille dont on a honte et qu'on voudrait... Non, mais un secret extraordinaire, quelque chose de fantastique, quelque chose qu'il vous tarde de pouvoir dire. Quelqu'un a dit, trois personnes sont capables de tenir un secret si deux sont déjà mortes. Dieu a tenu un secret. Parce que c'est comme ça que ce mot grec, la mysterion, est traduit dans la Nouvelle Bible Seconde. Secret. Dieu avait un secret. Et ce secret, il l'a tenu caché pendant toute l'éternité passée. Et puis, au moment de la mort de Christ, il va révéler ce secret extraordinaire. Et il va le révéler à ses apôtres, à ses prophètes, du Nouveau Testament, par son Saint-Esprit. C'est étonnant parce que Dieu est capable de cacher les choses en les laissant devant nos yeux. C'est incroyable ça. C'est un secret qui reposait sur des faits historiques. Ce sont pas des choses farfelues que Paul aurait inventées, mais c'est un secret qui était là et que Paul a simplement mis en lumière. Dans le verset 9, il dit « Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. » Et voilà le mystère maintenant. Verset 6. Il dit qu'il vient d'écrire en quelques mots dans le chapitre 2. Et ce mystère, il concerne les païens. En grec, païen ici, c'est ethnos. Ça a donné ethnie. Les différentes ethnies, les païens que nous sommes, sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Le mystère ici, ça n'est pas que Dieu a décidé de sauver les païens. Non, ça, c'était pas un mystère. Il en a parlé depuis le début. Dès le commencement, il a toujours eu en tête de sauver les païens. Il dit, par exemple, en Genèse chapitre 12, verset 3, à Abraham, il dit « Je vais te bénir et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Je vais te bénir et tu vas être une bénédiction pour toutes les nations. » Et Paul cite cette pensée dans Galates chapitre 3. Il dit « Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations pourront participer au salut que tu as préparé d'avance. » En Romains chapitre 15, je voudrais lire ces beaux versets qu'on a étudiés avec le groupe de jeunes. Au chapitre 15, verset 8, il dit « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, ça c'est écrit dans les psaumes, dans le psaume 18, un psaume de David, et il dit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Et il dit encore « Nation !» Réjouissez-vous avec son peuple. Et puis encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Et les nations espéreront en lui. Donc toutes les ethnies, tous les peuples étaient déjà prévus dans le plan de salut de Dieu. Mais alors, c'est quoi le mystère ? C'est pas que les païens seront sauvés, puisque c'est déjà écrit. Même, on le voit que l'inclusion des païens dans le dessein de salut de Dieu n'est pas une innovation de la part de Paul. La présence même du parvis des païens dans le temple à Jérusalem, ou encore les prophéties d'Ésaïe que Paul reprend en acte 13, où il dit « Je t'établis pour être la lumière des nations ». Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, dans tout l'Ancien Testament, on savait que Dieu avait pour projet de sauver des hommes de toutes les nations. Mais alors, si Dieu avait toujours l'intention de sauver les païens, quel est le secret ? Quel est le secret ? N'en pouvait plus, là. Hein. Le secret, c'est le verset 6. Le secret est dans la manière dont Dieu allait sauver les païens. Il dit, verset 6, « Nous, les païens, nous avons un même héritage. Nous ne sommes pas des cousins des Juifs dans la famille de Dieu, mais nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes les descendants d'Abraham, le croyant. » Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous ne sommes pas des pensionnaires dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des étrangers dans la maison de Dieu, mais nous sommes des fils dans la maison de Dieu. Nous sommes les descendants d'Abraham. Regardez ce que dit Paul en Romains chapitre 4, versets 16 et 17. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, les Juifs, mais aussi à celle qui a foi, qui a la foi d'Abraham, notre père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'établis père d'un grand nombre de nations, et notre père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Et puis encore en Galates, chapitre 3 et au verset 29, Galates 3, 29, il dit, je lis le verset 8, je ne peux pas m'empêcher, il dit, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous avons un même héritage. » Et puis il dit encore, nous formons un même corps. Le mur de séparation a été détruit, renversé par la croix de Christ. Il a créé en sa personne, avec les deux, les juifs et les païens, un seul homme nouveau pour les réconcilier en un seul corps, l'Église. Il ne s'agit pas simplement de sauver les juifs et de sauver les païens. Non, le plan de Dieu était de faire un seul homme nouveau, composé de juifs et de païens, qui forment un même corps, qui ont une unité parfaite, qui possèdent le même héritage, les mêmes promesses. Il dit, nous participons à la même promesse. Ailleurs, il avait dit, vous étiez des étrangers, vous n'aviez pas part à la promesse. Mais maintenant, nous participons à la promesse. Et quelle est la promesse? On a déjà vu ça. Au chapitre 1 et au verset 13, il est dit, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La promesse, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui avait été promis. Le même Esprit habite dans nos cœurs à chacun. Au chapitre 2 et au verset 18, il dit, « Par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même Esprit. » Un même Esprit nous anime. Et le Saint-Esprit nous est donné pour former un même corps, le corps de Christ, l'Église. Nous sommes unis à Christ, la tête. Et tout cela par l'Évangile. Voilà le secret. Voilà le grand mystère. Ce n'est pas simplement que Dieu sauve parmi toutes les nations, mais qu'en sauvant des hommes de toutes les nations, il a formé un seul homme nouveau, un seul corps. J'ai regardé des vidéos là, il y a ces derniers jours. Et notamment des vidéos de juifs et de palestiniens convertis à Christ qui se réconcilient. Je peux vous dire, c'est bouleversant. Lundi, c'est un juif. Il dit, même après m'être converti à Christ, pour moi, un bon arabe, c'est un arabe mort. Et le palestinien dit, pour moi, même chrétien, j'étais incapable d'embrasser un juif. Même un juif converti. Et puis les deux ont été travaillés par le Saint-Esprit. Et ils ont vu dans les Écritures, aimez vos ennemis. Ah oui, Dieu, ça c'est facile. J'aime mon ennemi. Tant que je ne le croise pas. Et puis un jour, ces deux hommes ont été mis l'un en contact, l'un de l'autre. Et puis ils ont prié l'un pour l'autre. Ils se sont retrouvés dans une réunion et puis ils ont dit, maintenant on va faire des petits groupes. Et puis, dans le petit groupe, 3-4 là, ils étaient ces deux gars. Et ils ont commencé à prier l'un pour l'autre. Et là, ça a changé leur cœur. Et là, ils ont compris le grand mystère. Le grand mystère, c'est pas que Dieu sauve des Juifs et des païens, mais c'est qu'il établit ses convertis dans un seul corps. Il les amène pour être une même âme, pour former un seul corps. Et ça, c'est le grand secret. Des hommes qui semblaient tellement opposés, des pécheurs qui se haïssaient les uns les autres, non seulement participent à la même grâce, mais ne forment qu'un seul homme nouveau. Et cette déclaration, elle est vraie entre juifs et païens, et elle est de fait vraie pour tous les croyants de l'Église. Et c'est ça qui doit nous toucher. C'est ça l'impact. C'est que Dieu nous a rassemblés, il nous a sauvés, et puis il nous a permis de former un seul corps. Alors, Paul ensuite, il va illustrer la chose. Et il illustre la chose avec son propre ministère. Il dit, verset 7, il dit, « J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Paul, il est serviteur de l'Évangile par la grâce de Dieu. Et dans tout ce passage, dans toute l'épître même, chaque fois qu'il parle de la grâce de Dieu, il l'applique à son propre ministère. Et il est émerveillé par la grâce de Dieu qui a transformé un persécuteur comme lui en un prédicateur de l'Évangile. Mais il va plus loin. Au verset 8, il dit « À moi le juif, à moi le circoncis, le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens. » Aux païens, Dieu a pris un juif pour aller annoncer le message de l'Évangile aux païens. Et c'est cela qui est bouleversant ici. Et c'est l'illustration que l'apôtre Paul il veut montrer ici. Il est devenu serviteur de l'Évangile pour les païens. Il dit au verset 1, « À cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ, pour vous, païens. » Au verset 8, « La grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens. » Dieu a fait un choix ici. Il aurait pu prendre un païen pour annoncer l'Évangile aux païens. Non, il a fait un choix qui reflète ce qu'il est en train de faire dans le monde, ce qu'il veut faire pour l'Église, c'est-à-dire unir son corps, ces hommes qui sont par nature tellement différents, tellement opposés, il veut les unir dans son Église et former un seul homme nouveau. Ici, il faut se mettre à la place des Juifs et des païens de l'époque. Envoyer l'apôtre Paul vers les païens, c'est comme si un descendant des Juifs morts dans les camps de concentration apportait l'Évangile aux Allemands descendants des nazis. Ou c'est comme un Palestinien converti à Christ qui annonce l'Évangile aux Juifs et qui devient pasteur à Jérusalem d'une église quasiment exclusivement juive. C'est comme si un Algérien devient pasteur d'une église française. C'est comme si un membre de la Séléka les musulmans en Centrafrique, la coalition musulmane, converti à Christ, devient un pasteur d'une église de Jésus-Christ en Centrafrique. Ou c'est comme si une église ou tout faisait venir un pasteur Tutsi au Rwanda, ou que les Serbes envoient une équipe missionnaire en Croatie. Paul dit, ça c'est le moyen par lequel Dieu veut accomplir son œuvre. C'est la manière dont qu'il a choisi pour amener son Église à vivre les réalités de l'Évangile. Il dit, verset 9, le moyen est de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. Et le moyen, c'est d'envoyer un juif pour parler à des païens. Dans les grandes agglomérations comme Toulouse, les églises se réunissent souvent par communauté ethnique. Il y a les Congolais, les Vietnamiens, les Chinois, les Bulgares. Et on comprend le bienfait pour la première génération d'immigrants de trouver des compatriotes, de chanter les cantiques, d'entendre la prédication de la parole de Dieu dans sa langue maternelle. On comprend cela. Mais aujourd'hui, dans notre conseil d'église, on réfléchit à cette question parce que nous croyons qu'il est nécessaire pour ces églises d'envisager que la seconde génération intègre et forme l'église locale, une église locale cosmopolite, parce que notre ville est cosmopolite. Et pourquoi on pense que c'est une nécessité ? On pense que c'est une nécessité parce que l'enjeu est la révélation du mystère de Dieu. Savoir que Dieu s'est formé une église unie. L'enjeu, c'est l'unité du corps de Christ par l'Évangile. Le monde sait que toutes les ethnies ont une ethnie avec laquelle elles sont en guerre. Et on passe notre temps, nos vies, à combattre les uns contre les autres. Et le plan de Dieu, ce n'est pas de créer des églises dans Toulouse de différentes ethnies. Parce que là, on montre la moitié du travail, on fait la moitié de l'œuvre. On ne montre pas le moyen que Dieu a choisi pour établir son Église et montrer l'unité du corps de Christ. Ce matin, nous sommes réunis en Christ. Chinois, Vietnamiens, Africains, là je suis obligé de développer un peu quand même, Côte d'Ivoire, Cameroun, Angola, Centrafrique, Congo, Togo, j'en oublie. Il y a aussi des Algériens, des Marocains, des Égyptiens, Cambodgiens, Américains, Russes, vous voyez un peu la guerre froide. Il y a des Français. Là encore, j'ai obligé de développer un peu. Hein. Il y a des Bretons. Et il y a des Martiniquais, qu'il ne faut absolument pas confondre avec les Guadeloupéens. Puis il y a des Vosgiens. Il y a des Bengalis, Québécois. Colombiens, malgaches, irlandais, brésiliens, espagnols, libanais, cubains, indiens, Mexicain, Allemand, Haïtien. Et nous avons un même héritage. Et nous formons un même corps. Et nous participons à la même promesse par Jésus-Christ. La diversité ne provient pas seulement de nos origines culturelles. La diversité, elle provient aussi de nos caractères, de notre éducation, de nos professions et de tout un tas d'autres expériences qui ont façonné notre personnalité. De sorte que il y a tout pour nous opposer. Il y a tout pour que des critiques et des divisions se fassent. Il y a tout, tout, tout est là. Dans les 12 disciples, il y avait un gars comme Lévi. C'était un collecteur d'impôts. C'était un collabo. Et puis il y avait aussi Simon le Zélote. Ça, c'était un patriote. Et Jésus, il a choisi ces hommes-là. Il y avait des frères, Jacques et Jean, des fils à papa. Et puis, il y avait une grosse boîte. Et puis, il y avait André et Pierre. Petite boîte. Petit artisan. Il y avait tout pour que ça explose. Mais Dieu a choisi, il avait prié toute la nuit avant de choisir ses 12. Justement, pour montrer le moyen par lequel il annonçait l'œuvre de l'Évangile. Il fallait le vivre. Et nous sommes en tant qu'Église l'illustration de cette glorieuse vérité d'un corps formé d'une grande diversité. Dans la passion pour la mission et dans une église multiethnique qui vit un évangile supraculturel, je ne sais pas si ça existe, ça, supraculturel, mais l'idée c'est que ça surpasse toute culture. On devient... C'est-à-dire, l'Évangile devient notre culture. Notre culture avant tout. Nous avons un passeport, et nous avons des passeports différents, des passeports africains, européens, américains, asiatiques, pour faire plus court. Mais avant tout cela, nous sommes de Christ. Et la manière dont on doit se présenter, c'est dire, je suis de Christ. Ça, c'est première chose. Avant la couleur de votre peau, de vos yeux, de vos cheveux, avant votre lieu de naissance, vous êtes de Christ. Et c'est cette nouvelle identité qui nous permet de nous approcher de Dieu par la même foi dans le même Sauveur. Alors, pourquoi là ? Quelle est la raison d'être de ce mystère ? Pourquoi Dieu l'a voulu ainsi. Au verset 10, il dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Waouh ! Dieu a créé l'Église dans le but de manifester sa grande sagesse devant les anges. L'Église n'existe pas seulement pour sauver des âmes, bien que ce soit là une tâche importante et merveilleuse. La raison d'être suprême de l'Église est de glorifier Dieu en manifestant sa sagesse, en manifestant sa puissance, en manifestant son amour pour tous les hommes. Imaginez un magasin de fleurs. Ça y est, pour certains, peut-être c'est plus difficile. Pour moi, ça a été plus difficile. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un fleuriste. Imaginez un magasin de fleurs. Prenez le magasin, mais un grand magasin de fleurs, magnifique. Le fleuriste, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui achète, qui cultive, qui réalise les bouquets, les compositions florales, devrais-je dire. La boutique, c'est l'Église. Les fleurs, ce sont les chrétiens. Les fleurs quittent le magasin par bouquet la plupart du temps pour porter un message. Tout comme les chrétiens sont des missionnaires qui portent le parfum de Christ dans ce monde. Le nom du magasin, c'est à la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est un peu long, mais le magasin est grand et ça tient sur toute la... À la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est le nom du magasin. Magnifique. Certaines fleurs servent dans des bouquets qui accompagneront une déclaration d'amour. Vous voyez le truc? D'autres servent dans un bouquet remis au vainqueur d'une compétition. La gloire, l'honneur. D'autres servent dans un bouquet remis pour un anniversaire ou simplement pour embellir et égayer une table ou une maison. D'autres servent à l'occasion de funérailles. Les fleurs sont toutes très différentes dans leur couleur, dans leur forme, dans leur parfum, mais toutes, elles sont porteuses d'un message de consolation, de joie, d'amour, de gloire. Et parmi les visiteurs qui s'arrêtent ébahis devant la vitrine et devant tous ces bouquets porteurs d'un si précieux message, il y a les anges. Et les anges célèbrent la sagesse infiniment variée de Dieu et glorifient Dieu pour sa sagesse, pour la grandeur de son amour, capable de toucher des hommes, de tout peuple, de toute nation, capable de réunir en un seul homme des hommes que tout oppose. Et les anges glorifient et célèbrent Dieu. Paul, il est emprisonné à cause de l'Évangile. Il est dans un bouquet particulier, probablement un des bouquets qui est jeté, frappé. Mais le parfum de ses fleurs se répand encore davantage. Et la semence de toutes ces fleurs, elle se répand encore au loin. Et elle porte du fruit, un fruit de multiples, capable de se reproduire dans de nombreuses vies. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, au verset 13, il dit « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Toutes mes afflictions, elles servent aussi dans la grande boutique pour manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. » Et quand Paul repense à tout cela, il dit « À cause de cela, verset 14, je fléchis les genoux devant le Père. » Je trouve ça admirable ici encore. Il dit « le Père ». Il vient de parler de la sagesse infiniment variée. Il vient de parler de la puissance de Dieu et capable de changer des cœurs. Il vient de parler d'un Dieu tout-puissant créateur. Et puis il l'appelle Père. Ça, c'est notre relation. On peut appeler notre Dieu, notre créateur, notre Père, simplement à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et il fléchit les genoux devant le Père. Il reconnaît que Dieu, parce que lui-même, il est émerveillé de cette sagesse infiniment variée. Il est bouleversé par cela. Et juste, il adore. Il adore, il se soumet. Et puis, il déborde de reconnaissance. Et il prie. Il prie que ses lecteurs saisissent ces vérités glorieuses de l'Église par son esprit. Il dit, afin, verset 16, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous savez, on a besoin véritablement d'être fortifié par l'Esprit Saint, d'être éclairé par l'Esprit Saint sur la réalité de ces vérités. Elles nous échappent tellement facilement. Notre nature, notre mauvaise nature, nous amène constamment à nous opposer les uns aux autres. Et il dit, il faut que l'Esprit Saint vienne dans votre cœur, qu'il vous éclaire, qu'il vous montre, qu'il vous révèle la grandeur de l'amour de Dieu, pour qu'on soit capable de s'aimer ardemment les uns les autres, pas simplement de se supporter, d'être assis dans la même église, non, mais de s'aimer. Afin que nous soyons remplis d'amour les uns pour les autres, à l'image de l'amour infini de Dieu pour nous. On ne peut pas vivre la réalité du corps de Christ, de l'Église, autrement que par la puissance du Saint-Esprit. L'Église, elle est formée par le Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas capable d'aimer les autres, vos frères. Et l'Esprit Saint, il vient habiter dans notre cœur simplement le jour où l'on croit en Christ. Il vient faire sa demeure et il nous rend capables d'aimer. On ne peut pas vivre la réalité du corps de Christ avec notre amour naturel. Ce n'est pas possible. Il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il dit, il faut que vous compreniez ce qui est incompréhensible. Il dit, je viens pour révéler des choses insondables. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Vous pouvez plonger vos regards jour après jour, après jour, après jour. Je pense qu'on le fera dans l'éternité. On découvrira encore la grandeur du plan de Dieu, la beauté, la splendeur de son amour pour nous. Et les jours nous amèneront une connaissance supplémentaire qui nous porteront à adorer ce que Paul fait au verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, à Dieu, qui peut faire par la puissance le Saint-Esprit qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Nous sommes tous différents dans l'Église. Et il y a une variété extraordinaire. Variété aussi de dons extraordinaires. Mais nous sommes tous acceptés par Dieu de la même manière, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Chacun d'entre nous entre dans la composition florale divine pour porter le glorieux message de l'Évangile. La joie, la paix, l'amour, la consolation et la gloire pour le pécheur. L'Église, dans sa diversité, dévoile le grand mystère, caché de toute éternité et dans les générations passées, et révélé depuis la croix de Christ et depuis la formation de l'Église par le Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier ça. Il faut garder ça dans nos cœurs pour qu'on puisse être rendu capable d'aimer nos frères d'une manière supérieure à l'amour naturel qui est dans nos cœurs, un amour divin, quelle que soit l'ethnie, quel que soit l'âge, quelle que soit la profession, quelle que soit l'éducation, quel que soit... Voilà. On doit porter à nous aimer les uns les autres par la puissance du Saint-Esprit, par la révélation que Dieu nous a faite de son Église. C'est comme ça qu'il l'a voulu. Parfois, on aurait tendance à se dire « Oh là là, mais si ça ne va pas, je quitte, je change, j'abandonne. » C'est précisément ça que Dieu ne veut pas. Le moyen, c'est justement de rester ensemble. Et c'est ça qui fait éclater la gloire de Dieu et la sagesse infiniment variée de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, merci pour la révélation de ce mystère caché depuis si longtemps et que tu as pris soin de nous révéler par les apôtres, par les prophètes du Nouveau Testament, de sorte que nous aussi on puisse réaliser ce plan extraordinaire, que nous formons un seul homme nouveau avec tout l'ensemble de nos rachetés, de tes rachetés, de nos frères. Nous profitons de la même promesse de ton Esprit Saint par lequel on peut s'approcher de toi avec confiance, avec assurance. Seigneur, merci de nous aider à manifester la réalité, Seigneur, de l'Église, la puissance de l'Église, pour que le monde invisible te glorifie, célèbre ta gloire, ta sagesse infiniment variée, mais aussi pour que les hommes puissent être frappés de la puissance, de la grandeur, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. Seigneur, on te prie pour que tu nous révèles ces choses par ton Saint-Esprit. Amen.